Donc ce matin, nous allons avoir notre réflexion qui va se focaliser sur Pentecôte, jour de la naissance de l'Église. Mais vous le savez, parler de Pentecôte nous amène à parler du Saint-Esprit. Donc ce matin, nous allons nous concentrer sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Donc je me suis imaginé, à travers la Bible, de regarder comment Dieu, pour chacun d'entre nous qui sommes en Jésus-Christ, comment il a travaillé par le Saint-Esprit avant notre salut, pendant notre salut et après le salut. Donc c'est ce que nous allons nous entretenir ce matin, nous concentrer sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants avant le salut. C'est le premier point que nous allons développer. Pendant ou le moment du salut, dans le salut, et après le salut. Et donc, sans tarder, nous allons passer au premier point. Je vous invite à prendre votre Bible et regarder avec moi 1 Pierre chapitre 1, verset 2, et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Donc, avant le salut, ici, nous allons voir le ministère de sanctification du Saint-Esprit avant la conversion. Je lis 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit? Pourquoi? Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Regardez 2 Thessaloniciens 2, 13. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Donc vous voyez, avant même que vous soyez sauvés. Comment? Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est clair que ces deux passages démontrent qu'il y a un travail effectué par le Saint-Esprit dans la vie d'une personne afin de l'amener à croire la vérité et à être sauvé. Avez-vous remarqué dans les phrases que j'ai soulignées ici que le Saint-Esprit met à part, c'est le sens de sanctifier, met à part les personnes afin qu'elles deviennent obéissantes à l'Évangile. Attention, ça n'enlève pas la responsabilité de l'homme parce que le verset 2 Thessaloniciens 2, 13 nous indique que la responsabilité de chaque personne est de croire à la vérité et ainsi d'être sauvé par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Pendant la préparation de ce message, une pensée m'est venue en se disant, c'est vrai, comment le Saint-Esprit a travaillé dans la vie des personnages bibliques pour les amener au salut? Et j'en ai vu plein. Et je vous juste encourager de voir dans votre Bible les témoignages de conversion de beaucoup de personnes. Et vous allez constater comment travaille le Saint-Esprit pour les amener à la repentance et à la foi dans le Seigneur. Juste à titre d'exemple, j'ai remarqué que dans certains cas, même avant que la personne ait entendu l'Évangile, le Saint-Esprit fait naître le premier désir de connaître Dieu dans l'âme de ces personnes. Par exemple, je vois dans Actes 8, la lecture de la Bible par un personnage important de l'époque, qui est le ministre de la reine d'Éthiopie, dans son char, qui lisait le prophète Ésaïe, mais ne comprenait pas ce qu'il lisait. Donc, attiré déjà par la lecture de la Bible, pour que Philippe viendra lui éclairer et qu'il vienne au Seigneur. Je vois aussi, parfois il révèle la conscience, prépare le cœur, et ça c'est le cas de Corneille, Actes chapitre 10, je vous incite à le lire tout ça, et Lydie, cette femme juive, dans Actes 16. Parfois, le Saint-Esprit utilise des circonstances, parfois une crise majeure. Et j'ai vu le cas du geôlier en Philippe, quand Paul et Silas étaient en prison, où ils chantaient les louanges de Dieu au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, il y a un tremblement de terre et les portes de la prison s'ouvrirent. Et le geôlier a peur de sa vie parce qu'il risquait la mort, parce que les prisons vont s'enfuir. Et en ce moment-là, Paul cria d'une voix forte et dit « Ne te fais point mal !» en s'adressant au geôlier. Nous sommes tous ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le geôlier se précipite, se jeta tremblant aux pieds de Paul et Silas et dit: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai vu aussi dans Actes comment le Saint-Esprit peut travailler pour amener quelqu'un au salut par le témoignage et la mort d'un chrétien. Et ça, c'est le cas de Saul, ou l'apôtre Paul. Quand il a assisté, il était présent à la lapidation de Étienne. Il a entendu le message de Étienne, son témoignage à propos du Seigneur Jésus à la droite de Dieu. Je vous invite maintenant, revenez en arrière, vous qui êtes au Seigneur, pensez à votre propre conversion. Comment Dieu, par le ministère du Saint-Esprit, vous a conduit au salut? J'entends de beaucoup de témoignages, il y a certains qui disent: moi, c'est à travers l'écoute des messages sur Internet, chez moi, là. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de péché et je suis venu au Seigneur en demandant pardon. Il y a ceux qui se convertissent dans des camps chrétiens. Et d'autres par le témoignage d'une amie, d'un ami, que Dieu a placé sur votre route. Soit d'autres, comme ce geôlier, par une crise majeure, par un accident, une maladie ou des circonstances difficiles de la vie. Mais une chose est sûre, la providence de Dieu qui tisse nos vies à celles des gens qui nous entourent dans des millions de détails, de circonstances pour nous amener à lui au salut. Et on peut dire merci Seigneur pour ce que le Saint-Esprit a travaillé dans nos cœurs pour nous amener au salut. La moindre des choses. Et prions ce matin même dans nos cœurs qu'il puisse faire son travail pour ceux qui sont déjà au Seigneur, mais aussi convainc ceux qui ne sont pas au Seigneur, et c'est lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. C'est ce que nous allons voir. Donc il y a le ministère de sanctification avant la conversion. Il n'y a pas que cela. Nous ne pouvons pas passer à côté de la manière comment il travaille le Saint-Esprit. C'est le ministère de convaincre. Et nous lisons cela en Jean chapitre 16, versets 8 à 11. Dans Jean, Jésus-Christ a trois reprises a déjà parlé du but de la venue du Saint-Esprit. Et dans Jean chapitre 16, c'est la quatrième fois qu'il va revenir sur le but. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Et là, il explique qu'est-ce qu'il va faire. Et ici, nous lisons, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est ce que nous allons voir maintenant. Qu'est-ce que c'est que le ministère de convaincre? Le mot grec convaincre, elenxie, veut dire tout simplement exposer, veut dire dévoiler. Donc l'idée du verbe est de montrer à quelqu'un ses péchés et de l'amener à la repentance. Très intéressant que ce même verbe convaincre est utilisé en Jean chapitre 8. Rappelez-vous de cette femme prise en flagrant délit d'adultère, et les pharisiens et les scribes la présentèrent à Jésus. Et pour juste voir comment Jésus va réagir, pour le piéger. Et parce que ces pharisiens et ces scribes attendaient qu'elle soit lapidée selon la loi de Moïse. Très intéressant, Jésus répond: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Et nous lisons en verset 9 du Jean chapitre 8. Quand ils, ça veut dire les pharisiens et les scribes, entendirent cela, accusés, ça c'est le mot convaincre, élancés, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un par un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc, le ministère de convaincre, selon ce que nous voyons ici, c'est que le Saint-Esprit, donc, travaille la conscience des personnes et il l'amène à reconnaître leurs péchés et venir se repentir et pour être dans la foi au Seigneur. Donc, ici, le Saint-Esprit est là pour établir la réalité du péché et convainc les gens de leurs péchés. Donc le Saint-Esprit œuvre dans l'esprit des non-croyants pour leur montrer le péché tel qu'il est et met le pécheur en face de son iniquité afin qu'il soit persuadé. Convaincre, nous connaissons maintenant, donc dévoiler, exposer, pour que la personne voie et que le Saint-Esprit l'amène à reconnaître tel qu'il est le péché et venir se repentir pour la foi dans le Sauveur. Ministère de convaincre, premièrement, du péché. Donc, parlons maintenant du péché. Vous entendez beaucoup parler du péché à la légère. Vous allez beaucoup entendre même des expressions péché mignon. Regardons la Bible. Comment il qualifie le péché? Donc, le péché, déjà, veut dire manquer le but. Et le péché est une offense à Dieu. 2 Samuel 12-13, hein, vous pouvez le lire. Et le péché entraîne la séparation d'avec Dieu. Quand on parle de séparation, ça veut dire la mort. La mort, ce n'est pas une annihilation. La mort, c'est une séparation. Ici, donc, de notre âme, de notre esprit d'avec Dieu. D'abord, le péché est universel. Nous lisons dans Romains 5, 12, « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Donc, dans cette salle ou dans l'autre salle, quel que soit son âge, quel que soit votre âge, que vous soyez homme ou femme, enfant, la Bible dit que tous ont péché. Nous sommes pécheurs. Je dirais même les jeunes enfants livrés à eux-mêmes sont capables de pire cruauté, même envers d'autres enfants. Il n'y a pas longtemps, quelques temps parlant avec une sœur qui est agréée pour garder des enfants, combien elle voit la cruauté même dans les enfants à l'âge de un an envers les autres. Bon, je vous laisse imaginer. Le péché est non seulement universel, mais il est envahissant. Ça veut dire quoi? Il contamine tous les aspects de notre être, de notre personnalité, de notre existence. L'intelligence, hein, de Corinthiens 4:4, le Dieu de ces siècles-là a aveuglé l'intelligence. Il envahit, contamine aussi notre volonté, hein, qui est corrompue et rendue inapte à choisir le bien. Hein, comme Jésus disait à ses auditeurs, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est un refus, rejet de ce que Jésus disait. Les émotions sont perturbées, perverties. Certains cœurs sont remplis de colère, de haine des autres, et sont tourmentés jour et nuit par des peurs insensées. Rappelez-vous la première fois quand le péché est entré dans le monde, le réflexe, nous lisons dans Genèse 3, 10, Adam, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc vous voyez, le péché entraîne des perturbations profondes et qui envahit soit indirectement ou directement causé par le péché. Le péché aussi est insensé. Et c'est très intéressant de regarder dans l'exemple du fils prodigue. Hein, les actions du fils prodigue étaient si insensées, que sa repentance constituait simplement un retour à son bon sens. Nous lisons en Luc, hein, chapitre 15, verset 17, « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Vous voyez, combien si insensé d'avoir pris cette décision de quitter la maison du père et de dilapider le bien et d'aller dans des vies dissolues. Et c'est pour cela que vous voyez, ça touche toutes les sphères. Aujourd'hui même, plusieurs relations conjugales, familiales, ont été ruinées pour une seule nuit de plaisir illicite. Et on se vante même de cela aujourd'hui, des conquêtes, des expériences, de tout. Ça, c'est insensé. Quand on veut rechercher un instant des sensations fortes par l'usage de drogues illégales, combien ceux qui ont détruit l'usage les plus nobles de leur cerveau, et combien ceux qui n'ont même pas pensé que ça puisse leur arriver, finissent leur vie en prison à cause de cela. C'est insensé, le péché. Le péché est trompeur. La Bible nous avertit de ne pas nous endurcir par la séduction du péché, Hébreux 3:13. Ainsi, un homme peut se croire riche, fortuné, sans problème. La Bible dit en réalité il est malheureux, misérable, aveugle et nu, Apocalypse 3:17. Et tellement le péché est trompeur que les gens se croient même sages dans ce qu'ils font, mais ils sont devenus fous, dit la parole de Dieu. Vous voyez la tromperie du péché. Romains 1:22. Le péché endurcit. Le péché a le pouvoir d'endurcir notre cœur. Et c'est effrayant, ne serait-ce qu'y penser, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Plus on s'enfonce dans le péché, moins le péché semble gênant. Ça, c'est l'endurcissement. La conscience est ainsi cautérisée, dit la Bible. Et donc, l'être humain connaît bien le début du péché, mais il ne connaît pas jusqu'où ça amène la fin du péché. Et c'est terrible. Le péché nous tient en esclavage. Personne ne peut échapper ou se libérer de la captivité du péché. Jésus disait, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Même si vous réussissez à abandonner un péché, un autre viendra immédiatement le remplacer. Et c'est souvent le péché d'orgueil, de convoitise, de jalousie, de calomnie. Et donc le péché nous tient en esclavage. Il ne faut pas être naïf. Le péché nous souille. Le péché ne doit être pris à la légère. Parce qu'il n'y a pas de péché mignon ni amusant, comme je viens de dire tout au début. Il est extrêmement pernicieux et pervers, et tout péché est tordu, laid et méprisable. Donc nous devrions être extrêmement choqués de la méchanceté des hommes et avoir honte d'y être à ce point habitués. Je ramène la Genèse. Vous vous rappelez que le premier-né de ce monde a tué son propre frère. Et depuis ce jour, l'histoire de l'humanité est caractérisée par la guerre, l'envie, la haine, la torture, le viol, la perversion et les mauvais traitements et la brutalité. Et quand vous entendez aux médias, même à l'âge d'adolescent, moins même, combien on est capable de meurtre. Ça, c'est le péché et son ravage. Cependant, j'attire votre attention, nous devons admettre que ce monde est comme il est parce qu'il est rempli de personnes comme vous et moi. Il y a une profonde méchanceté en chacun de nous. Donc, vu l'horreur du péché et la gravité du péché, comme nous venons de décrire, c'est pour cela que le Saint-Esprit exerce dans le monde le ministère de convaincre. Pour montrer à quelqu'un ses péchés, d'appeler la personne à se repentir. Je vous invite ce matin, dans votre cœur, laissez à travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit fasse l'œuvre de vous convaincre du péché. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver et ce que le Saint-Esprit peut faire en vous ce matin. Devant la parole de Dieu, il y a deux options, il n'y a pas un intermédiaire. Vous savez pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 16, verset 9 que nous venons de voir, Jésus parle du péché ici, quand il dit convaincre du péché, il s'agit du péché de l'incrédulité, celui de ne pas croire en Jésus. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, c'est ce que dit Jésus. Donc, si vous avez entendu la parole de Dieu, vous ne pouvez pas rester inerte. Impossible. Soit on refuse, soit on accepte par la foi. Si l'homme refuse de croire en Jésus, c'est cela qui va le condamner. Pourquoi? Comme quelqu'un devant une maladie, un cancer incurable, et que le médecin propose pour pouvoir le soigner, de dire, ben, vous allez subir tel traitement, et il y a une chance de guérison. Mais non, je refuse. C'est votre choix. Et c'est un peu ainsi vis-à-vis de la foi aussi. Soit on accepte la solution pour régler le problème de son péché, ou bien on la refuse. Et donc le Saint-Esprit œuvre dans l'esprit des non-croyants pour leur montrer le péché tel qu'il est. Et met le pécheur en face de son iniquité afin qu'il en soit persuadé à salut. Donc je vous invite, dans votre propre cœur, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous avons parlé du péché pour les non-croyants. Mais attention, en tant que chrétiens, nous commettons toujours du péché. Toujours. Toujours, même ce matin. Et donc, nous ne sommes pas exemptés et nous péchons chaque jour. Les choses sont encore plus subtiles, tout simplement. C'est pour ça que, si vous lisez le psaume 139, nous avons besoin que les péchés soient exposés à nos propres yeux pour que nous puissions voir l'horreur, sa gravité. C'est pour ça que nous devons prier en tant que chrétiens. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ici, ce n'est pas à dire que Dieu ne voit pas ou Dieu n'est pas omniscient. La prière du psalmiste, tout simplement, c'est de dire « Expose-moi à mes yeux ce qui est dedans de mon cœur que je ne vois pas. » Nous avons besoin, en tant que chrétiens, que le Saint-Esprit, par sa parole, puisse nous mettre à nos yeux ce qui est sondé dans nos cœurs pour que ça amène à notre vue de voir horreur. « Misérable que je suis !» dit l'apôtre Paul. C'est ça le but. Vous savez, j'utilise un peu une métaphore. Souvent, nous sommes dans le salon, il y a le tapis devant le canapé, il y a le canapé, et nous aimons bien passer l'aspirateur sur le tapis devant le canapé. Mais, personne ne verra, on ne va pas passer l'aspirateur sous le canapé. Un peu cette attitude-là, sur laquelle je vous interpelle, il est toujours plus facile de traiter les péchés qui se voient et de faire comme si les autres sous le canapé n'existaient pas. Il y a un danger. Il y a un danger, pourquoi ? Parce que ce qui n'est pas mis en lumière est un péché qui va grandir et qui va détruire notre relation avec Dieu et avec les autres. Donc, comme le psalmiste, prions Dieu que nous ne passons pas juste l'aspirateur sur le tapis, mais que Dieu puisse nous révéler à nos yeux, regarder en dessous de ce qui est sous le canapé aussi. En dessous des canapés, il y a ces péchés, je dirais, moins évidents, comme l'inquiétude, la peur, la colère, le mécontentement, l'impatience, la jalousie, la convoitise, et la liste est longue. Sans oublier l'idolâtrie, qui est un péché assez subtil. Ça peut être des bonnes choses, mais qui sont exagérées, et nous ruinent notre vie, comme la carrière, les relations, les hobbies, la famille, je dirais même les enfants peuvent devenir des idoles pour notre cœur. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est placé avant Dieu devient une idole. Tout ce qui nous détourne notre regard de Jésus et fait notre joie peut nous tromper et faire de nous des idolâtres. Et donc, là-dessus, combien nous avons besoin du travail du Saint-Esprit pour nous convaincre de ces péchés, même ceux qui sont cachés sous le canapé, que nous avons besoin de reconnaître et de l'exposer à notre vue. Et ça, c'est l'œuvre que fait le Saint-Esprit. On peut dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait, le Saint-Esprit, pour cela. L'œuvre du Saint-Esprit aussi, c'est de convaincre le monde de justice. C'est difficile. Qu'est-ce que il entend par là, Jésus, quand il parle la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc il y a deux manières de voir. Si vous vous placez du côté des disciples auxquels il adresse cette parole, je m'en vais au Père, veut dire pour les disciples, le Saint-Esprit va arriver. Il est promis, il va arriver. Mais ici, plutôt, il ne faut pas se placer du côté des disciples, il faut se placer du côté du Père. Je m'en vais au Père. Donc Jésus, par son ascension, arrive au Père, à la droite du Père. Donc, du côté du Père, cela signifie tout simplement que le Père atteste et valide par la résurrection de Jésus-Christ que la vie parfaite de Jésus, son œuvre sur la croix, est toute suffisante pour notre justification. Donc, du côté du Père, celui que les hommes ont crucifié comme malfaiteur a été justifié par le Saint-Esprit. Et en le glorifiant, Dieu a mis son sceau sur toute sa vie, toute son œuvre et toutes ses paroles. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? Il est venu dans le monde pour nous convaincre de cette réalité. Que maintenant, vous pouvez être déclaré juste parce que Dieu a testé, quand le Fils est venu au Père, que les 33 ans de vie a manifesté sa justice parfaite. Et Dieu a mis son sceau, c'est le seul qualifié. Et si vous placez votre foi en lui, Dieu vous déclare juste. C'est de votre statut dont il s'agit devant Dieu. Oui. Et donc, c'est cela qu'il est en train de parler. Et le Saint-Esprit, ce matin, vous convainc de cette réalité. C'est ça ce qu'il fait. Et enfin, l'Esprit convainc le monde de jugement. Je vous pose la question, si une personne résiste aux deux démonstrations que fait le Saint-Esprit de convaincre du péché, de convaincre de justice, alors, s'il refuse ces deux aspects du ministère du Saint-Esprit, qu'est-ce qui lui reste? Ce qui lui reste, c'est que l'Esprit va lui convaincre de jugement. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et là aussi, c'est quelque chose que le monde refuse et que le monde ne veut même pas entendre, il le prend à la rigolade. Tout simplement, à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé et d'une manière inconcevable, parce que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités sataniques et les a délivrées publiquement en spectacle, Colossiens 2:15. Donc le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Vous savez, la tactique du diable, c'est toujours, le diable ne veut pas se laisser découvert. Il préfère même être ignoré. Mais le Saint-Esprit, il va dévoiler et on délivrera les hommes, sachant que maintenant ils peuvent être libérés de l'esclavage de Satan, de l'esclavage du péché, parce que Jésus-Christ a dépouillé Satan de son pouvoir de détenir les hommes dans son esclavage. Et ça, Satan ne veut pas qu'on le sache. Mais le ministère du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de dire, c'est ça la réalité. Vous pouvez devenir libre maintenant. Il suffit de placer votre foi dans le Sauveur qui a dépouillé Satan du pouvoir de la mort et aussi de vous détenir dans l'esclavage. Vous voyez ce grand ministère? C'est incroyable, c'est ça ce que fait le Saint-Esprit. Maintenant, dans le salut, qu'est-ce qu'il fait dans le salut maintenant? Rapidement, la régénération. La régénération, régénérer veut dire tout simplement engendrer à nouveau. Communiquer une seconde vie. Ressusciter spirituellement. Pourquoi? Parce que notre âme est morte dans ses péchés et privée de la vie de Dieu et a besoin de cette résurrection spirituelle. Et vous voyez, une question qui peut se poser, depuis ce matin, on avait beaucoup de questions à poser sur les passages bibliques. Ici, qu'est-ce qui produit en nous la régénération? Regardons Jean 3, 5, 6, 8. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, né d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, qu'est-ce qui produit en nous la régénération? C'est clair, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la parole de Dieu, il va appliquer avec efficacité à la conscience et au cœur du pécheur pour produire la repentance envers Dieu et la foi dans le Sauveur. C'est ce qui est souligné dans 1 Pierre 1:23. Vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc c'est lui qui produit. Maintenant, comment être régénéré? La réponse, nous le savons, Jésus l'avait dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, placer la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui vous permet d'être régénéré, d'être ressuscité spirituellement, parce que vous êtes mort spirituellement. Regardez ce que fait le Saint-Esprit dans le salut. On peut être baptisé du Saint-Esprit. Et ça, c'est un événement que nous avons lu ce matin. David a lu donc plusieurs textes dans Actes. Et cet événement a été annoncé par Jésus à ses disciples et accompli le jour de Pentecôte. Après sa résurrection, le Seigneur recommanda aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il ajouta, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est-à-dire seulement 10 jours avant son ascension au ciel, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Actes 1, verset 5. Donc, on peut être baptisé du Saint-Esprit. Donc, plusieurs années plus tard, l'apôtre Paul, au sujet du baptême du Saint-Esprit, nous écrit, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez l'expression? Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit. Donc ça démontre le temps du verbe que c'est quelque chose qui a été déjà accompli une fois pour toutes. C'est une expérience à ne pas renouveler. Il est fait une fois pour toutes. Et ça c'est arrivé au jour du Pentecôte où le Saint-Esprit fait sa descente dans cette chambre haute avec les 120 disciples et d'où la naissance de l'Église. Et ce verset démontre quelque chose de très important. Nous avons tous, juifs et non-juifs, et sans distinction de race, de sexe, sans distinction sociale, sont dans le corps de Christ. Question qui se pose, hein, dans le salut maintenant, est-ce que la régénération est une expérience différente du baptême du Saint-Esprit? À votre avis, est-ce que c'est deux choses différentes? Non. C'est une seule et même expérience. C'est une seule et même expérience parce que le baptême du Saint-Esprit a pour résultat de faire de nous des membres du corps de Christ. Au moment où vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous êtes plongé et vous êtes immergé dans le corps de Christ. C'est formidable. Peut-être que vous dites, oh, qu'est-ce que ça a à faire avec ma vie aujourd'hui? Mais il ne faut pas ignorer que sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction sociale, nous sommes tous un dans le corps de Christ. Quel privilège! Et vous êtes là, et ça c'est la véritable sécurité pour le salut, du fait que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais être excommunié du corps de Christ. Pourtant, dans l'église locale, on peut être excommunié pour raison de péché. Vous voyez? C'est quel privilège! Et quand vous imaginez moi, indigne pécheur, je suis dans le corps de Christ, baptisé, et ça c'est quelque chose d'inimaginable. C'est ce que Dieu a fait pour tant des pécheurs indignes que nous sommes. Et non seulement donc le baptême du Saint-Esprit a pour résultat de nous faire des membres du corps de Christ, mais aussi de nous sauver, de faire de nous des héritiers de la vie éternelle, Tite 3.5. Nous sommes aussi la demeure du Saint-Esprit. Ça, c'est le point C. Jésus lui-même a annoncé la présence du Saint-Esprit en nous. Nous en avons parlé ce matin. On ne va pas s'étaler. Mais Jean 14, 17, Jean 14, 16, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, nous montrent que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Quand il parle de demeure, il a établi domicile. Et ça, c'est arrivé au moment où vous placez votre foi au moment de votre salut. C'est incroyable. Il habite en nous. Une question se pose. Si on pêche, alors est-ce que le Saint-Esprit se retire de nous? Nous avons répondu à la question ce matin. Non. Nous attristons le Saint-Esprit, mais il reste toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Confesser le péché. Se repentir. Abandonner le péché. Et le Saint-Esprit qui est déjà en nous reprend le contrôle. Il va prendre plus de nous encore dans notre vie quand nous lui cédons tous les terrains, tous les endroits cachés, les recoins de notre vie. Il va prendre plus le contrôle. C'est ce qui nous amène maintenant, après le salut, regardez ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Regardez Éphésiens 5, 18. Ne vous n'enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Quand on dit « soyez remplis de l'Esprit », le verbe est le présent, c'est-à-dire continuel. Et être rempli du Saint-Esprit veut dire être sous le contrôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, mais si nous l'attristons, il n'a pas tout le contrôle de notre vie. Vous voyez, il ne part pas, il est là, mais il n'a plus le contrôle dans notre vie. Et le Saint-Esprit ne nous force pas. Donc c'est important de considérer ces choses. Et vous voyez l'image ici qu'il utilise l'apôtre Paul pour faire comprendre ce que c'est être rempli de l'Esprit. Il va prendre une image un peu négative, si vous voulez, de celui qui est ivre. Et celui qui est ivre, il est sous le contrôle du vin. Et cela pour faire comprendre que c'est ce que c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est être sous le contrôle du Saint-Esprit. Une question m'est arrivée dans l'esprit et se disait, oui, On peut se poser cette question. Être rempli de l'Esprit, est-ce qu'on parle des quantités du Saint-Esprit? Tiens, ma femme a 85% du Saint-Esprit. Lala, 25% du Saint-Esprit. Hein? Jiwan en a 75%. Est-ce que c'est ça veut dire qu'on n'en a pas assez? La Bible nous dit, il faut retenir, Jésus lui-même a dit, que tous les croyants ont la plénitude du Saint-Esprit au moment de son salut. Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure, Jean 3,34. On a tous la plénitude du Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit a plus de nous, comme nous venons de le dire tout à l'heure. On a le même Saint-Esprit, il ne s'agit pas de quantité, il s'agit de contrôle qu'il a dans nos vies. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit veut avoir plus de nous, et c'est ça ce que signifie être rempli de l'Esprit. Et donc, est-ce que vous êtes obéissant au Seigneur de dire, je laisse maintenant axer ma vie, tous les petits recoins, tout ce que j'ai gardé pour moi, pour que lui aussi saisisse, il fait son travail dans ces domaines-là où j'en ai besoin de son aide. Il faut savoir que le Saint-Esprit ne nous force pas, hein, pour qu'il ait le contrôle de notre vie. Nous devons de bon cœur lui céder le contrôle et nous abandonnons totalement à lui pour faire sa volonté. Donc ceci nécessite l'abandon total de notre volonté et la soumission à sa volonté. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit, c'est pas comme le baptême une fois pour toutes. Hein. C'est quelque chose de continuel. Parce qu'à chaque fois que nous ne cédons pas les recoins où il a besoin de faire son travail, eh bien, nous ne sommes pas remplis de l'Esprit. Et donc, regardez Acte 2.4, regardez Acte 4.31, c'est quelque chose qui se répète. Un processus qui se répète. Regardons rapidement, avant de terminer, le rôle du Saint-Esprit et la prière. Dans Romains 8, 26 et 27, c'est vrai qu'il nous arrive d'être dans des situations pour lesquelles on ne sait pas comment prier. Tellement difficile, complexe, compliqué. Et nous ne savons même pas. Et vous savez, il a un ministère formidable. Par son action souveraine, il entoure et couvre notre prière pour la présenter au Père Céleste, lui insufflant sa pensée qui s'accorde bien avec celle de Dieu. Oui, nous ne savons pas toujours ce qu'il y a de mieux pour nous ou pour les autres, mais soyons reconnaissants de ce ministère qu'il ait et qu'il veuille nous aider dans nos prières même, dans les choix difficiles, dans les décisions importantes de la vie. Il est là. Il intercède pour nous. Aussi dans l'adoration, il agit, le Saint-Esprit. Hein? Et comment, en tant dans l'adoration, comment fonctionnent les sacrificateurs dans le Nouveau Testament? Philippiens 3.3, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc ici, c'est quelque chose de spirituel et non pas cérémoniel comme dans le cas de l'Ancien Testament. Vous voyez, très codé, avec un lieu précis, avec les matériels, avec la personne qualifiée, etc., etc. Non, ici, c'est par l'Esprit, il est possible d'adorer Dieu, et ceci individuellement. Ça, c'est quelque chose d'inouï. Éphésiens 2,18, car par lui, nous avons les uns et les autres, accès auprès du Père par un seul Esprit. Vous voyez, ça, c'est le privilège de tous les croyants aujourd'hui. Il n'a pas besoin d'être de la lignée de Aaron et ses fils pour pouvoir être les sacrificateurs comme dans l'Ancien Testament, non. Tous les croyants ont ce privilège individuellement, dans le collectif, d'adorer Dieu. C'est inouï, hein, pour un juif de comprendre cela, et même pour nous-mêmes. Quelle merveille pour des créatures déchues comme vous et moi de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu saint, afin de l'adorer et le servir. Je vous dirai, honnêtement, ça me dépasse. Mais pourtant, c'est une réalité, et c'est la vérité, ce que Dieu fait par le Saint-Esprit en nous, et à travers nous. Et je ne veux pas passer à côté des réalités où le Saint-Esprit est en action à 100% et dont il est même la source de toute chose. Hein? Ici, après le salut, le Saint-Esprit est source de beaucoup de réalités que nous ne pouvons pas ignorer. Il est à la source de l'unité. Ephésiens 2, 18, 4, 3, 4. Il est à la source de la communion. 2 Corinthiens 13, 13, Philippiens 2, 1. Il donne la liberté, la vraie liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Le Saint-Esprit accorde la force de témoigner pour Jésus. Actes 1, 8, 2 Timothée 1, 7. Il donne la vie et la paix. Romains 8, 6. Il donne la puissance. Romains 15, 13, 1 Corinthiens 2, 4, Ephésiens 3, 16. Et le Saint-Esprit, comme il veut, il donne à chacun des dons spirituels pour édifier l'Église du Seigneur. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Et le Saint-Esprit produit dans nos vies le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 à 23. Je ne veux pas oublier aussi son ministère important vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous en avons parlé longuement tout à l'heure. De l'inspiration, ça veut dire que ce que nous avons entre nos mains ici, c'est le souffle de Dieu. Différents auteurs, différentes époques, plusieurs siècles, mais tous convergent, amenés par le Saint-Esprit, ces auteurs, à glorifier la personne de Jésus-Christ. Lui, le sujet central de la Bible. Ça, c'est l'inspiration, mais il y a aussi l'illumination. L'illumination, ce n'est pas une deuxième révélation. Nous avons la Bible au complet. On n'a pas besoin d'autres révélations, mais l'illumination s'agit de nous faire comprendre ce qui est déjà révélé. Oh, des moments, quand on est face à des textes, oh, c'est difficile, qu'est-ce qu'il veut dire? Et le Saint-Esprit, en ce moment-là, nous aide à comprendre ce qui est déjà révélé, est écrit noir sur blanc. Et ça, c'est son ministère, chaque fois que vous êtes en face de la parole de Dieu. Il le fait. Et donc, ça, c'est tout le mystère du Saint-Esprit. Et pour terminer, n'oublions pas, le Saint-Esprit est celui que nous avons ce matin évoqué. Il freine le mal pour qu'il soit encore pas à son comble. C'est l'horreur. Chaque fois que nous ouvrions les médias, la radio et tout ça, ce que se passe dans ce monde, c'est horrible. Mais il freine encore. Avant qu'il lâche le soupape, et que le monde est mûr pour le jugement. Il le fait. Comment? À travers le témoignage des chrétiens, à travers la présence des chrétiens. Et vous et moi, placés dans le lieu du travail, à l'école, à la fac, partout, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Et le Saint-Esprit utilise cela pour encore freiner le mal. Il agit dans les cœurs. Et ce matin, si vous n'êtes pas au Seigneur, vous savez que vous n'êtes pas régénéré. C'est clair, c'est simple. La foi en Jésus-Christ, c'est tellement si simple que l'ennemi nous trompe de dire, tu crois à cela? Oui, c'est la vérité. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.